Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on a un invité spécial pour parler de tokenisation.
Yep. La tokenisation. N'oubliez pas de partager le podcast. Vous savez, si vous aimez la valeur, ça vous aide, ça peut aider d'autres personnes. Alors, partagez-le, guys. Et n'oubliez pas que maintenant, tous les samedis matins, on fait des sessions complètement gratuites sur Zoom pour vous donner de la valeur pour faire une rétrospective de la semaine et du marché. Donc, soyez là, suivez-nous sur notre page Instagram, le Learn and Earn Crypto Podcast, et dans notre groupe Telegram gratuit que vous allez retrouver justement sur notre page Instagram. Donc, comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va dire ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte. Donc voilà, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Et voilà, merci.
Bon petit warning, j'aime bien.
On n'a pas le choix.
On
n'est pas conseiller financier.
Donc, on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais que tu commences juste par prendre 30 secondes pour te présenter pour nos auditeurs comme ça. Juste pour te présenter,
mon bro. Ben, moi, c'est Guillaume. En fait, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons Cash. Parlons de résilience, c'est A, signe de pièce, H. Où est-ce que je fais des vidéos? Je fais trois types de vidéos. Je fais des podcasts, des micro-trottoirs où j'interview des gens dans la rue sur l'argent, la crypto, puis je pose des petites questions aux passants, des trucs comme ça. Puis je fais des vidéos explicatives où je présente des concepts. J'ai fait une vidéo sur la tokenisation, mais je vais plus en développer avec vous en ce moment.
Ben, c'est pour ça que t'es là.
Exactement. Oh, exactement.
C'est quoi?
T'as bu du gourou ou quoi?
Non, même pas. C'est pour ça que j'en bois pas. Parce que si moi je bois du gourou,
ouais, bois-en pas.
Wow. Donc, la tokenisation.
Yes. Genre, pour commencer,
pas besoin de poser de questions, il est parti, vas-y.
Genre, niveau historique, les premières fois où on a... La tokenisation, en gros, ça peut être fractionner un titre de propriété. Fait que les premières fois dans l'histoire où on a fractionné des titres de propriété, c'est avec les voyages vers l'Amérique. Genre, les premiers voyages vers l'Amérique, ça a été uniquement financé par la monarchie, le roi d'Espagne, la couronne d'Angleterre, puis les choses comme ça. Puis là, on voulait rendre ces genres de voyages-là plus accessibles pour des investisseurs, puis des choses comme ça. Fait que c'est là qu'ils ont créé la première société par action qui était le East Dutch India Company, ou je sais pas dans quel ordre, mais genre la compagnie des Indes allemandes. Ça a été vraiment la première société par action comme on l'entend aujourd'hui pour répartir les risk reward des voyages, parce que ça peut arriver que comme on envoyait un bateau avec des gens chercher des ressources en Amérique,
souvent, qu'on appelait.
Puis c'est ça, qu'il y avait des problèmes, soit des conflits avec les Indiens, soit ils se faisaient vider par des pirates ou des genre.
Tu vois, que je veux dire, le bateau coule,
tout le monde meurt du scorbut. Genre, ils pouvaient avoir plein de problèmes. Puis ça coûtait cher envoyer des gens là-bas. Fait que c'était vraiment juste l'élite, la monarchie, la couronne qui pouvait se permettre de faire ce genre de voyage-là. Fait qu'on a commencé à diviser le voyage, le coût et les bénéfices du voyage. Fait que tu pouvais acheter 1% d'un voyage, puis quand le voyage allait revenir, ben avoir 1% du loot, comme on dit, de l'or, de la fourrure, whatever, qu'est-ce qu'il ramenait comme ressources en Europe.
Nice,
c'est très intéressant.
Il a commencé par...
Knowledge historique direct.
Vas-y.
Yes.
Ben écoute, je suis... Enchaîne?
Ouais.
Enchaîne, okay.
En plus, tu avais tes lignes directrices, j'ai écrit ça.
On était sur le bord de te poser des questions, mais t'es arrivé, boum, tes lignes directrices.
Ouais. On va te laisser faire un monologue, je crois que t'es bien parti.
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas me couper à tout moment et tout. Genre, je suis là pour répondre aux questions aussi, parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment. Genre, j'ai découvert le concept de tokenisation il y a peut-être un peu plus d'un an en lisant un article qui s'appelait World IPO Day, qui expliquait que comme... la majorité de la richesse est verrouillée dans genre des... Mettons, tu veux un château, tu veux quelque chose comme ça, tu peux pas te permettre un château. C'est vraiment juste des familles, des élites. Si tu veux des œuvres d'art qui valent cher, comme la Mona Lisa ou des trucs comme ça, genre tu peux pas te permettre ce genre de trucs-là. Mais en fractionnant le titre de propriété, ben, tu peux maintenant te permettre de posséder une partie d'un château ou une partie d'une œuvre d'art, puis être exposé à la valeur marchande de ce truc-là. Fait que si l'actif prend valeur, ton token prend valeur, fait que comme... c'est juste une façon de vraiment faire de l'argent avec des choses qu'on ne pouvait pas faire de l'argent avant.
Qu'est-ce qui t'a amené vers cette passion? La crypto, la tokenisation, la blockchain?
Well, j'ai toujours été, je ne veux pas rentrer dans les trucs trop dark, mais j'ai toujours été dans les trucs genre, je crois beaucoup Illuminati, qu'il y a vraiment un... C'est même plus une croyance. Je veux dire, il y a le World Economic Forum qui nous dit ouvertement qu'ils veulent établir un gouvernement mondial, centraliser le pouvoir, puis ce genre de choses-là. Puis pour moi, la crypto, la décentralisation, la distribution, genre ce genre de technologie de blockchain peut nous permettre de refaire le monde sans eux. Genre vraiment rendre le pouvoir au peuple. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois la crypto. Comme avec les sites, comme... Les projets comme ceux du Web 3, mais en ce moment, tout le web, on est dans le Web 2. Genre, j'ai pas besoin, sûrement, vous avez déjà expliqué ça plusieurs fois sur le podcast. Ouais, ouais. Genre, le GAFAM contrôle à peu près tout. Maintenant, c'est Gamma avec chez Facebook qui a changé pour Meta, mais comme Google, Amazon, Meta, Apple, contrôle le Microsoft, contrôle le 90% du web, du flux d'informations, puis capitalise sur nos informations qu'on produit en interagissant avec leur site. Ben, avoir des protocoles décentralisés, des applications genre Web3, rend le pouvoir aux utilisateurs.
100%.
Puis c'est ça qui m'intéresse vraiment, genre profondément.
OK. Puis t'as commencé quand à t'intéresser à ça?
Ça fait un peu plus d'un an. Genre, je vais pas mentir, j'ai acheté des bitcoins à l'époque pour genre le dark web et ce genre de trucs-là, mais j'avais aucune conscience de ce que c'était et de le potentiel qu'il y avait derrière. Puis c'est vraiment il y a environ 2 ans, je veux dire 2 ans, que j'ai commencé à vraiment investir dans d'autres projets. Parce que pour moi, quand je voyais les cryptos, pour moi, toutes les autres, c'était juste des wannabe bitcoins, puis j'avais pas encore compris le concept de smart contract, puis de genre tout ce qu'on pouvait faire avec cette technologie-là. Mais dès que j'ai commencé à creuser un peu, ça m'a comme... Je suis tombé dans le rabbit hole, comme ils disent, dans le terrier du lapin, directement.
Qu'est-ce qui t'a fait passer de « ça m'intéresse pas, c'est juste Bitcoin qui compte ».
C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que je m'y connaissais pas. Genre, j'avais jamais vraiment juste « dig ». Genre, dès que j'ai commencé à creuser
puis
à chercher…
Qu'est-ce qui t'a fait « dig » ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement, quelque chose qui t'a fait dire « ouais, il faut que je cherche un peu plus » ?
Je pense que c'est juste que je suis arrivé à comme 23 ans puis que j'étais comme « j'ai pas d'investissement ». Tu sais, j'ai commencé à investir dans la bourse et dans la crypto en même temps parce que je voulais juste me mettre à investir puis à faire « work » mon capital, comme on dit. Puis sinon, c'est vraiment juste en cherchant dans quel projet je vais investir. Tu sais, je voulais acheter de la crypto, mais je voulais pas juste genre Shiba Inu, Dogecoin ou n'importe quelle connerie. Tu vois, je voulais genre savoir dans quoi je mettais mon argent. Puis c'est en faisant ces recherches-là sur quoi je mets mon argent que j'ai comme tout découvert ça.
Tu avais déjà ce mindset de je vais faire les choses de la bonne façon.
Ouais,
bon endroit.
100%,
je veux pas
100%.
Juste du quick cash. Je veux,
100%.
Je veux être smart avec mon argent. Yeah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené vers ce mindset-là? Est-ce qu'il y a des livres ou est-ce que depuis que t'es jeune?
Yeah, of course. Genre, je suis fan de Robert Kiyosaki. Robert. Tu vois, je vous ai entendu parler
classique
de
encore une fois.
Il a sorti un livre cette année qui s'appelle Faux, que je recommande extrêmement. Genre,
Faux?
Faux. En 2022, il l'a sorti. Genre A1, Faux, F-A-U-X. Pour genre fausse monnaie, faux actifs, faux... Tu vois, il explique beaucoup que tous les produits dérivés qu'on utilise sur le marché, c'est genre une bombe à retardement, puis genre... En tout cas, je vous laisse lire le livre et voir de quoi il s'agit, mais je recommande fortement cet ouvrage.
OK. Je ne savais même pas qu'il avait sorti.
Non, moi non plus, je ne savais pas.
Comme je dis, je suis fan de Robert Kiyosaki. Pour moi, c'est un des plus grands génies financiers de notre ère, littéralement.
Nice.
Genre, Paris, riche, pas pauvre, c'est le truc de beginner. Genre, il a littéralement été écrit en 97, quand je suis né, mais Stills, aujourd'hui, ça reste un ouvrage de référence. Genre, je pense que c'est le livre financier le plus genre, vendu dans le monde.
Si vous ne l'avez pas lu,
je vous le conseille live. Là. Allez lire ça, c'est la première chose à faire.
Je pense qu'on l'a tellement dit dans le
podcast. Oui, normal.
Si quelqu'un ne l'a pas lu, là, il y a...
T'es pas dans la finance.
Ça ne peut pas ça.
Directement.
Puis sinon, c'est quoi que tu aurais à nous dire de plus sur la tokenisation?
Déjà, premièrement, faire la différence entre un IPO puis un ICO ou un ITO pour le token. Tu sais, un IPO, c'est une, en français, appel public à l'épargne ou initial public offering. C'est la première fois qu'un titre, donc une action de compagnie, est émise en bourse. Pour faire un IPO, il faut que ta compagnie elle ait du sens, il faut qu'elle ait un fondement. Tu peux pas juste genre que ta compagnie n'existe pas puis genre faire un IPO ou whatever. Un ICO, tu peux faire ça pré-projet. Comme je pense que le premier ICO ever, ça a été Vitalik Buterin qui a fait le ICO de Ethereum. C'est vrai, c'était vraiment pré-projet. C'était un white paper, c'était une idée. Il n'y avait rien de tangible de créer. Fait qu'avec le concept de ICO, si tu as simplement une idée puis tu es capable de la matérialiser puis de bien la présenter, tu peux facilement trouver des investisseurs pour mettre de l'argent dans ton projet, même si le projet n'existe pas encore.
malheureusement, ça ouvre la porte à beaucoup de scams, puis beaucoup de gens qui vont faire des faux projets ou ils vont faire des white papers qui fait du sens, puis qu'après ça, ils vont juste prendre l'argent puis disparaître. Ça arrive.
90%.
J'ai pas les chiffres, mais comme malheureusement, il y a un bon pourcentage de tokens de merde sur le marché, on va pas se dire. Pour ça qu'il faut faire le Dior, do your own research. C'est très important de rechercher avant de mettre ton argent n'importe où. Genre, pour moi, c'est comme... une heure, 100$. Fait que si tu veux mettre 1000$, fais au moins 10 heures de recherche. Tu veux mettre, en fonction de ce que tu es capable de mettre, évidemment, mais comme, mets-toi un ratio de je suis prêt à mettre tant, mais pour mettre X montant, je dois avoir fait X heures de recherche avant de le mettre.
C'est intéressant le point que tu viens d'apporter. Ouais, c'est très, très, très intéressant.
Yeah. 10 000$ pour une heure de recherche.
Exact. Comme un... ça dépend. Ouais, si tu es multimillionnaire, je veux dire, 10 000$ pour une heure, ça peut être très raisonnable pour toi. Si tu es quelqu'un qui n'a même pas 10 000$ à mettre, fais plus d'heures de recherche avant de te rendre.
Non, mais j'aime ça, le ratio de OK, regarde, je suis prêt à mettre 100$ ou 1000$ ou 10 000$ ou 100 000$ par heure de recherche.
C'est ça, exact. Si genre, avoir zéro heure de recherche puis mettre de l'argent, pour moi, c'est complètement ridicule. C'est juste ridicule. C'est se mettre à risque. Même si c'est sur le Bitcoin, qui je considère que c'est l'actif le moins risqué dans la crypto, si tu n'as fait aucune recherche sur le Bitcoin puis tu te mets à acheter des Bitcoins, tu es peut-être au mauvais timing du marché. Puis si tu avais fait des recherches, tu serais dans un meilleur timing puis tu aurais mieux compris le cycle et comment attendre. Ça fonctionne. Exact.
Ouais, 100%. Nice.
Ouais.
Sinon, un token, ça peut être pour moi deux choses. Ça peut être soit un titre de propriété, fait que genre comme une action, ça représente un pourcentage de propriété, mais ça peut aussi être un droit. Je sais pas si vous avez vu V Friends de Gary V, mais genre quand t'achètes son NFT, ça te donne un droit d'accès à lui. Fait que genre tu peux avoir un Zoom call, une game de ping pong, ou genre tu sais il y a plusieurs trucs qui viennent avec ça. Fait qu'un un token, c'est pas forcément un titre de propriété. Pour moi, c'est vraiment un contrat entre l'émetteur puis l'investisseur. Fait que genre quand tu écris un contrat, tu peux mettre n'importe ce que tu veux dans le contrat. Comme c'est toi qui décides les clauses et tout. Puis après ça, c'est celui qui le signe. Ou dans ce cas-là, c'est l'investisseur qui va acheter le token qui décide s'il accepte ou pas. Genre, s'il achète ton token, ça veut dire qu'il accepte les termes de ton contrat. S'il l'achète pas, ça veut dire qu'il refuse les termes de ton contrat. Fait que si tu fais un token avec des clauses ou genre un contrat qui fait aucun sens, il y a juste personne qui va l'acheter. Ça t'incite à faire comme quelque chose de bon.
J'ai même pas de questions.
Non, moi non plus, j'ai pas de questions. Vas-y, je crois que t'avais noté déjà des points.
J'ai noté quelques trucs. Genre,
je pense que c'est la première fois qu'on pose pas de questions.
Ouais, moi je suis là. Il parle, j'écoute, je suis comme, c'est quoi la prochaine question que je pourrais poser?
Je me sens comme un prof en ce moment.
Ouais, vas-y.
Tu vois, d'habitude, on pose des questions, là, on est juste comme.
Go ahead.
Ouais. Let's go ahead.
Pour moi, un token, tu vois, sinon, c'est en français, ça se dit jeton. Fait que, mettons, on peut faire un parallèle avec le casino. T'as un jeton de casino qui vaut 100$, ben, c'est pas 100$, c'est un représentatif de 100$. Fait que ton token, c'est pas genre la propriété, c'est un représentatif du titre de propriété. C'est juste une façon de représenter le sous-jacent sur la blockchain. Si je peux dire ça comme ça.
Ouais, 100%. Nice.
Yeah.
Nice. Est-ce que tu as, après que tu as fait tes recherches, tu vois, que tu as trouvé Bitcoin, ensuite tu as fait tes autres recherches, c'est quoi ton top 3 de tes projets favoris? Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, mais...
Autre que Bitcoin? Autre que Bitcoin, Ethereum?
Sors Bitcoin, Ethereum.
Ouais, Enlève Bitcoin, Ethereum de l'équation. Je veux dire, les gens, ils...
Parce que c'est mes deux plus
crypto,
grosses positions.
Crypto, Bitcoin, Ethereum.
Évidemment.
En dehors de Bitcoin et Ethereum.
Je suis bullish sur DOT, Polkadot, fait de l'interconnexion des blockchains, parce que je suis pas sûr, genre, on peut, c'est pas un conseil d'investissement, on sait pas s'il va avoir plutôt une blockchain sur laquelle va tout avoir, puis on va être capable de tout faire tourner, ou s'il va avoir plusieurs blockchains. S'il y a plusieurs blockchains, ben, l'idéal, ce serait d'avoir une façon de les interconnecter, de pouvoir faire des transferts d'un token d'une blockchain à l'autre, ce genre de choses-là. Puis c'est ça que Polkadot, l'écosystème, dans un sens, essaie de faire, c'est d'avoir plusieurs parachains, puis de pouvoir tout interconnecter. Fait que pour moi, c'est un projet qui fait beaucoup de sens. Sinon, un petit projet dans lequel j'ai investi dans le ICO, ça s'appelle le Winkyverse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est comme un petit robot éducatif qui apprenne aux jeunes à coder ou les mathématiques. C'est genre vraiment un petit robot, un petit jouet. Puis dans le jouet, il y a des applications que tu vas acheter avec le token de Winkyverse. Puis c'est juste genre des trucs éducatifs. Fait que moi, personnellement, pour mon enfant, plus tard, j'aimerais ça avoir ce petit robot-là qui va lui apprendre par le jeu les mathématiques, le codage, la grammaire, d'autres langues, puis ce genre de trucs-là.
Ouais, j'en avais entendu parler, mais j'ai pas...
C'est super intéressant.
Yeah, genre le projet,
moi,
je le trouve vraiment cool.
J'ai une fille de 3 ans, moi, ça me parle beaucoup.
C'est ça. Puis,
Winkyverse.
bon. ça, quand on dit, quand t'achètes un token, on dit toujours, genre, regarde l'équipe, qui est derrière le projet. Est-ce que, tu sais, oui, c'est beau si le projet fait du sens puis il sonne bien, mais genre, est-ce que les gens qui se travaillent derrière vont être capables de vraiment se rendre là?
Tu peux avoir le plus beau bateau de la planète si l'équipage, je sais pas.
Si le but est un mauvais capitaine, oublie ça, ça sert à rien.
Quand tu vas sur un, tu sais, le site de la compagnie, tu cliques sur l'équipe.
Yeah, exact.
Puis tu vois juste le nom, ou des fois tu vois des photos d'avatars avec des faux noms, t'es comme genre.
Il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, comme le Shiba Inu, tu sais pas qui y a derrière. Ouais, c'est non, genre un gars qui se fait appeler Ryoshi ou whatever, qui est comme. Si c'est louche as fuck, je veux pas mettre mon argent dans quelque chose.
Comme Bitcoin était louche as fuck au début.
Ouais, exact, mais maintenant Bitcoin, je pense que
c'est. Ouais, non, mais là, maintenant ça fait sa preuve, c'est différent.
Time proof, si on peut dire ça comme ça. Mais le Winkiverse, c'est un projet qui a été mis par la Polytechnique de France, littéralement. C'est les ingénieurs de la Polytechnique de France qui gèrent ce projet-là. Puis ils ont vraiment un roadmap sur plusieurs années. 2024, ils veulent sortir un dessin animé par rapport aux robots pour comme créer l'intérêt chez les jeunes et ce genre de trucs-là. Fait comme j'ai mis mon argent, je pense que ça fait un peu plus d'un an, puis je pense pas le ressortir avant 5-10 ans de là.
Nice.
Comme je veux vraiment laisser voir le projet se développer avant de capitaliser. Tu vois, il faut avoir une mentalité long terme par rapport à ça. Vraiment. C'est notre Winkiverse.
So,
comment tu l'écris?
Polkadot Winkiverse.
W-Y-N-K-I-V-E-R-S. Ou inverse le I et le Y, je suis jamais sûr. Genre,
c'est ouais, c'est bon. W. Je vais trouver comme ça. Au moins, je sais Winkiverse.
Winkiverse.
Good. Good, thanks.
Puis en troisième, sur quoi je suis bullish. Le GRT de Graph qu'on appelle le ou Quant, qui sont les genres d'indexeurs. Un indexeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme on va prendre plein de données, puis en faire genre un genre de résumé pour que ce soit facile de faire des recherches. Parce qu'avec la blockchain, mais je veux dire, il y a des blocs qui s'ajoutent en permanence, fait que ça devient de plus en plus dur. Quand tu cherches ton information, tu cherches à travers de plus en plus d'informations, fait qu'on aura besoin de protocoles qui vont comme condenser l'information puis faire en sorte que les recherches soient simplifiées. So, c'est ça, GRT, Quant, ce genre de trucs-là, pour avoir des on-chain data, puis ce genre de trucs-là.
Nice.
Très utile. C'est ça, je cherche des projets qui ont une réelle application, comme ce genre de trucs-là. Polkadot, puis GRT, vraiment, c'est ceux où je suis pas mal bullish.
Pour quelqu'un
aussi
qui est nouveau, puis est comme, OK, écoute, moi, j'ai envie de faire mes recherches, mais comment est-ce que je trouve des projets et comment est-ce que je fais mes recherches sur un projet?
Yeah, exact.
Question intéressante.
C'est
well, comme on disait live, regarde l'équipe. Genre, va dig l'équipe. C'est gens qui sont derrière les projets crypto, généralement, ils ont des profils LinkedIn. Stalk leur profil LinkedIn. Littéralement, c'est à ça que ça sert, LinkedIn. Va stalker des gens.
Leur
regarde, c'est quoi.
Comme tu stalks le profil
d'une fille
Instagram.
Arrête de stalker les filles sur Instagram. Va stalker des profils LinkedIn de professionnels. Tu vas dig un peu là-dessus, puis tu vas voir qui a un parcours qui fait du sens, puis qui vient juste de se lancer. Quand c'est quelqu'un qui vient juste de se lancer, ça veut pas dire qu'il va pas réussir, mais genre, je préfère investir sur des gens qui ont un parcours.
Ouais.
Littéralement.
OK. Puis comment tu trouves tes projets?
Fait que
étape 1, ouais, exemple, étape 1, tu trouves ton nouveau projet, puis tu vas voir l'équipe.
Comment tu veux dire, trouver le projet? Ben, c'est, comment ça s'appelle? CoinMarketCap. Je dig le site, là, juste genre. Toutes les cryptos, clique dessus, va voir qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert et tout. Comme il y a, puis dans le top 100, on va pas se mentir, il y a un paquet de merde. Littéralement, il y a un paquet de tokens sur lesquels je mettrais pas un seul dollar qui sont dans le top 100, qui ont des valuations en plusieurs milliards, que comme je toucherais pas à ça. Littéralement. Fait que genre, vas-y projet par projet. Sinon, je veux dire, il y a beaucoup de YouTubers, des gens comme vous qui parlaient de projets et des trucs comme ça. Fait que quand tu vois quelqu'un de sérieux, comme moi, j'aime beaucoup Hasher, je sais pas si vous connaissez, c'est un français. Genre, c'est en grande partie à cause de lui que comme. Je me suis mis à créer du contenu sur la crypto puis ce genre de trucs-là parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Il a parlé de beaucoup de projets sérieux que je suis allé voir, comme le H-Bar puis ce genre de trucs-là, que comme j'ai découvert grâce à un YouTuber qu'il en a parlé. Fait que je suis allé faire mes recherches. Puis en faisant mes recherches, j'ai fait comme « Ah, OK, ça fait du sens. Je vais en acheter un petit peu.
»
T'as une section aussi, si je me trompe pas, sur CoinMarketCap. J'essaie de regarder en ce moment au CoinGecko que c'est tous les nouveaux qui viennent de rentrer sur le site web.
Deux, là.
Ouais.
Ben, CoinGecko.
Mais j'avais regardé sur un des deux dernièrement. Ouais.
Oh mon Dieu, excusez-moi.
Mais c'est ça, c'est une autre belle façon aussi de voir.
Pour trouver des nouveaux projets.
C'est ça, des nouveaux projets qui peuvent potentiellement avoir un.
Mais en ce moment, on est dans le bear market. Fait que tout a perdu comme 80% au fil de la dernière année. Fait que juste acheter même un VET ou genre quelque chose de plus validé, qui n'est pas nouveau, il y a quand même moyen de faire des beaux gains dessus.
Définitivement. Il y a plein de beaux projets, justement. Dans l'Académie, Samuel nous a préparé une belle liste de 70 projets, c'est ça, 70?
That's dope. Je
70, 70 projets. Donc, 70. Si vous la voulez, ben, envoyez-nous un DM, puis on va vous montrer comment
c'est
l'obtenir.
C'est sûr que c'est un projet qu'il faut faire ses recherches. Je suis pas dans tous ces
c'est
projets-là.
Ça.
Non,
exactement. Sur ces 70, partage une liste que vous devez aller tout acheter directement
sur
sans regarder.
Sur ces 70
là.
Projets-là, je suis dans 15 projets. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. C'est des projets intéressants. Mais moi-même, sur ces 70-là, je suis seulement dans 15
c'est
projets.
C'est ça. Honestly, 70 projets. Je veux dire, même si tu mets un 100 balles partout, ça fait comme 7000 déjà. Tu vois ce que je veux dire? Fait comme on n'a pas tous unlimited capital. Genre, on a des moyens limités. Fait qu'essaye de mettre ton argent, tes billets, là où ça fait le plus de sens.
Surtout présentement, parce que même des projets qui sont très beaux, qui ont une belle équipe et tout, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans un marché. Tu sais, moi, c'est pas mon premier achat depuis... Si, quoi, depuis fin 2016, début 2017, je trade.
Juste avant le premier, le dernier bull run.
Exact, puis je trade depuis, même avant ça, ça fait quoi, 6-7 ans. Ça, c'est pas mon premier, puis j'ai vu des magnifiques projets avec des belles équipes, là.
Mm-hmm. Tomber.
Se faire ramasser pendant
ça,
le.
Mais au final, c'est une compagnie, là. Puis comme même si tu veux démarrer un magasin qui vend du pain et des bangs sur le coin de la rue, ça veut pas dire que tu vas être là d'ici les 2, 3, 4, 5 prochaines années.
Tu pourrais littéralement l'ouvrir, être le plus grand pendant 5 ans et puis c'est
puis
fini.
Puis tomber comme Blockbuster. Je veux dire, Blockbuster, ça a régné sur le marché de la vidéo pendant des années et puis Netflix est arrivé et puis comme
boom. Puis l'inverse aussi, rien du tout, tu lances, ça marche 2 ans, un petit crash économique, t'as mal calculé tes trucs.
C'est ça.
Pour revenir à la tokenisation, c'est idéal pour lancer une start-up. Genre justement, on parlait d'un truc de pain, si tu veux ouvrir une petite boulangerie, mais t'as pas le capital ou whatever, tu peux émettre un white paper puis partager, mettons, 50% des titres de propriété, ou tu peux même juste faire en sorte que le token que t'émets représente une royauté. Fait que genre 10% des revenus de la boulangerie vont être reversés aux détenteurs du token en stablecoin ou whatever. Genre, il y a ce genre de projet-là qui existe que je trouve super intéressant. Genre, c'est pas une crypto en tant que telle, c'est vraiment juste genre soit un titre de propriété, soit un titre de royauté ou ce genre de truc-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis encore plus intéressant, tu peux le faire sur un artiste. Fait que genre, si t'as un artiste émergent qui est en train de genre se faire une petite fanbase, sa fanbase peut acheter son token puis investir dans sa carrière. Puis après ça, racheter genre... c'est un token, comme je dis, ça peut être n'importe quoi. Fait que ça peut être un pourcentage des revenus de son prochain album, ça peut être des royautés à vie, ça peut être genre pour ses 3 prochains albums, ça peut être une partie des revenus d'un concert. Genre, tu peux émettre des tokens puis te faire financer par ta fanbase, puis ta fanbase qui t'aime, qui t'écoute, qui aime ta musique, peut genre investir en toi puis capitaliser sur ton succès. Fait que moi, je trouve ce genre de concept fucking intéressant pour les jeunes artistes, puis même pour les établis. Tu sais, t'as Tory Lanez qui a émis 1 million de tokens qui représentaient chacun un accès à un album privé ou whatever. Fait que genre, il a émis 1 million de tokens qui a vendu, je pense, une pièce chaque. Fait qu'il s'est littéralement fait 1 million avec un album. Puis ce token-là s'est revendu par après, puis genre, il s'est revendu quand même. Je pense qu'en ce moment, le floor price, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais la dernière fois que j'ai vu le floor price, c'était à comme 300$. Plus il y a le concept de royauté dans les tokens, dans ce genre de trucs-là. Fait qu'à chaque fois que sur le marché secondaire, le token que tu as émis se vend, tu peux faire un 3, 4, 5, 10% de royauté. Puis ce genre de trucs-là que je trouve genre fucking intéressant aussi.
Pour les artistes.
Exactement.
Tous les artistes. Autant,
autant un peintre ou un n'importe quoi. Genre si tu fais une peinture, tu la vends à quelqu'un, mais après ça, si cette personne-là en ce moment la vend à quelqu'un d'autre, tu fais rien. Mais si tu as un certificat de propriété qui est un token, faut que tu transfères le certificat de propriété, puis en le faisant, la vente de cette façon-là, tu peux retoucher un royauté, puis à chaque fois que quelqu'un revend à quelqu'un d'autre ton œuvre, tu peux te refaire une royauté à chaque fois. C'est fucking intéressant comme concept.
C'est super intéressant et ça va grandir de plus en plus. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les NFT fractionnables.
Mm-hmm. Le principe c'est ça. Pour moi, c'est fractionnable. C'est pas un NFT, c'est juste que c'est un token fongible.
C'est ça, j'adore ça. NFT. Comme tu dis, c'est absolument... C'est juste incroyable où ça va nous amener. Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais couvrir? Sinon, j'ai eu une question. Je voulais savoir si toi, tu avais...
Ouais, juste l'encadrement puis ce genre de trucs-là. Fait que tu sais, je peux créer un token qui représente 100% de la valeur de propriété de ma maison. Puis si je te vends ce token-là, c'est comme si je te vendais ma maison, littéralement, parce que tu deviens propriétaire de 100% de la maison. Sauf qu'en ce moment, on n'a pas tant de législation puis de réglementation que comme si je te vends ma maison sur la blockchain puis je décide de rester chez moi, qu'est-ce que tu peux faire? Genre, tu peux pas vraiment aller voir la police puis dire « Hey, mais il m'a vendu ce token qui représente sa maison ou whatever. » Genre, ça prend un law enforcement, ça prend genre vraiment un cadre juridique où genre tu peux me mettre dehors de chez moi si j'essaie de mettre de chez toi maintenant parce que tu possèdes le token, genre, je sais pas ce que je veux dire. Ouais. Fait que ça prend vraiment un cadre légal. J'ai vu sur le site de l'AMF qui...
C'est pour ça qu'il faut... Les gens sont très contre la régulation, mais ça dépend quelle régulation.
Ça dépend quelle régulation.
Moi, je pense qu'il y a besoin de régulation à certains niveaux pour 100%. Que le... En fait, il y a besoin de régulation à certains niveaux. C'est nécessaire pour que le marché 100%. Puisse aller à un autre
Puis stade, minimiser justement niveau, le nombre de scams, puis de faux IPO, puis de faux genre tokens.
Pour
de...
protéger les gens et pour amener le marché à un autre niveau aussi.
100%
là.
D'accord.
Tu ne vas pas avoir un Bitcoin à 500 000 puis des Ethereum à 10, 20, 30 000 avec aucune régulation parce que cette régulation va amener des gros investisseurs.
Exactement. So, je ne suis pas tant pour l'arrivée des gros investisseurs dans un sens parce que ça fait un peu de centralisation du supply dans quelques mains. Puis c'est genre, pour moi, l'idéal, c'est vraiment genre que tout le monde sur la planète possède des bitcoins, mais pas nécessairement les entreprises géantes. Puis ce genre de trucs-là, que comme, ça devienne vraiment la monnaie du peuple. Ou qu'on fasse une monnaie collatéralisée par le Bitcoin, comme expliqué dans le livre Bitcoin Standard, que je recommande as fuck aussi. Genre, je sais pas si t'as
vu, je le connais.
Incroyable.
C'est vrai que...
Incroyable.
Deux bons livres qu'il vous a dit aujourd'hui.
Trois. Pas riche, pas pauvre.
Faux.
De Bitcoin Standard. Sinon, il y a un gars, Paul Cryptoformation, je pense que vous l'avez eu ici. Genre, il y a sa Bible du Bitcoin. J'ai pas lu le livre au complet, j'ai survolé, mais comme... it makes sense pour quelqu'un qui est vraiment pas sur le marché, qui a jamais entendu parler du Bitcoin ou qui en a juste entendu parler vaguement, qui est pas genre dans tout ça. C'est un excellent livre pour commencer à comprendre le Bitcoin. Genre, shout out à Paul.
Nice. Ben moi, je veux finir avec une dernière question de mon côté. Je sais pas si toi après.
Non, c'est bon.
Mais merci pour bon tous tes podcast. Points. Honnêtement, c'était super fort.
Merci à vous de l'invitation.
Le spam d'attention des gens, hein, donc on veut pas que l'épisode soit trop long, mais t'es venu puis t'as vraiment pas faveur donné plein de valeur. Fait que je vais juste finir avec cette dernière question. C'est quoi le plus grand conseil non financier que tu peux donner aux gens dans cette saison présentement avec qu'est-ce qui se passe, avec qu'est-ce que t'as découvert, avec qu'est-ce que tu peux leur dire là en deux minutes là comme...
En vrai, ça a déjà été dit, c'est Dior, fais tes propres recherches. Genre, ne mets pas l'argent dans quelque chose que tu connais pas. Genre, tu sais, le marché fonctionne par cycle. Puis si je l'avais compris plus tôt, comme tu sais, quand je suis rentré dans le marché, j'ai un petit peu, genre, mis dans des endroits où j'aurais pas dû mettre parce que j'ai commencé à mettre de l'argent avant de faire trop de recherches. C'est pour ça que j'ai vraiment mon ratio maintenant de genre une heure de recherche, X temps de recherche pour Y montant d'argent. En faisant ça, tu t'assures de genre. Pas tu t'assures de ne pas perdre, mais comme tu mets les chances de ton côté.
Exact.
Genre vraiment, il y aura toujours des risques, il y a toujours moyen que le Bitcoin tombe, que genre quelqu'un réussisse à trouver une façon de scam des clés privées, puis ce genre de trucs-là. Le risque va toujours exister, mais le risque est partout. Il y a aucun endroit, à part genre des bons du trésor, puis encore là, ça arrive que des gouvernements font défaut sur leurs dettes. Ça peut arriver ça aussi, fait que comme... Il y aura toujours des risques, mais comme plus tu fais de recherche, plus tu comprends ce dans quoi t'es, mieux ça va aller pour toi, puis plus tu risques de comme bien t'en sortir, littéralement.
100$ par heure de recherche. Ou 1000
pour importe. Vrai, c'est ça. Quand tu commences 100$ par heure de recherche, ça fait du gros. Ben, même, tu peux mettre 50$ par heure de recherche si t'as pas beaucoup de budget ou whatever. Toi, ça dépend de toi, du temps que t'as de libre. Si t'as un travail, des enfants, whatever, que t'es limité, ok, ou si t'as pas beaucoup d'argent, like, fais ton ratio à toi, mais comme fais des recherches. Dig, l'information, elle est là, puis elle est facile à trouver. Il y a plein de bons podcasts, il y a plein de gens. Super intelligent, genre YouTube, c'est excellent. J'ai appris tellement sur fucking YouTube. Genre, les gens ils rient, genre, ah, je suis allé à l'université, toi t'apprends sur YouTube. Like, I don't give a shit. Like, sur YouTube, genre, à l'université, c'est un prof qui parle devant une classe. Sur YouTube, c'est quelqu'un qui parle devant une caméra. C'est pas parce que le gars est devant la classe qu'il dit nécessairement des choses qui font plus de chance que celui qui est devant la caméra. Genre, littéralement, j'ai vu des. Comme Robert Kiyosaki, c'est pas un prof d'université. Mais still, si t'écoutes ce qu'il a à dire, like, it's smart, tu vas apprendre.
Ouais.
Littéralement.
Ouais. Merci d'être venu.
Merci
pour vrai. C'était très instructif.
Rempli de valeur. Guys, partagez les podcasts. Partagez l'épisode. Vous avez aimé les podcasts. Vous avez aimé cet épisode. Vous avez trouvé de la valeur. Il y en a eu de la valeur. Partagez-le avec d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent avoir cette valeur-là.
Yep. Yes.
Let's get it.
Puis on se voit sur le prochain samedi. Épisode.
On se voit samedi. On se voit samedi matin, 10h du matin.
16h de Paris.
16h de Paris. Zoom public, gratuit, ouvert à tous. Le lien va être partagé dans notre groupe down. Telegram.
Je vais rejoindre votre Zoom. Yes. Je suis down.
Let's go. Yes.
Allez sur la page Instagram, suivez-nous. Vous allez trouver notre page Telegram là-bas. Vous allez dans le groupe Telegram, c'est gratuit. Et on fait des, le samedi matin, des overviews de la semaine, de chart, des prix, d'absolument tout. C'est gratuit. Nombre de places limitées, par exemple. Donc, le premier qui clique sur le lien, il est dans le...
Premier arrivé, premier servi.
Et voilà.
Il y a un nombre de places limitées sur Zoom, so that's it.
All right, let's get it. Merci, les gars.
Yeah, ça fait plaisir. Ciao.
Ciao. Bonne journée. Journée.